La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Et aujourd'hui on va combattre une autre forme de charge mentale professionnelle. Oui. C'est possible Elisabeth grâce à Mooncard, une start-up qui simplifie les notes de frais.
Oui, Mooncard, c'est une carte de paiement qui gère vos notes de frais vos dépenses professionnelles. La note de frais, je le rappelle, ça permet aux salariés de recenser chaque mois, normalement, ses dépenses professionnelles, puis elle est remise à son supérieur pour obtenir le remboursement des frais. Sauf que tout ça, ça prend du temps. On attend parfois plusieurs mois, on ne le fait pas chaque mois.
Non.
Et ça demande des moyens humains. Les notes de frais concernent près de 2,5 millions de salariés. Bonjour Tristan Le Teutre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Mooncard. Et vous êtes parti du constat qu'une note de frais, ce sont 5 à 10 documents, parfois gérés entre 2 jusqu'à 6 personnes pour les grosses entreprises. Et c'est là où vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose.
Oui, j'ai une expérience, moi, de direction de petites entreprises, de grandes entreprises, entreprises cotées. Et il y a toujours le même problème récurrent qui intervient, c'est dépenser pour son entreprise, se faire rembourser. Et ça, c'est effectivement une charge mentale qui concerne 2,5 millions de salariés en France.
Donc tout ça, ça vous est arrivé puisque vous-même, vous êtes énervé sur vos notes de frais.
Oui, alors moi, personnellement...
Comme ça que naissent souvent les grandes idées.
Exactement, j'ai dessiné la solution idéale que j'aurais aimé avoir en tant que dirigeant de ma PME d'une centaine de personnes. C'est quoi concrètement? C'est des collaborateurs qui déjeunent avec des invités, qui prennent le taxi et qui, à la fin du mois, prennent leur tas de justificatifs, remplissent un tableur à la main.
Quand ils ne les ont pas perdus.
Exactement. Voilà,
ça sent le vécu,
qu'on entend
Raphaël,
très souvent. Ils remplissent un tableur, ils envoient ça, ils aggravent des tickets. Donc en 2020, nous, on trouve ça un peu absurde d'aggraver des tickets. Et puis derrière, vous avez des armées de comptables, de financiers qui aussi passent énormément de temps.
Alors qu'ils ont d'autres choses à faire.
Et voilà, aussi. Et donc on veut que les gens juste fassent leur travail et pas de l'administratif et des tickets.
Alors c'est quoi cette carte de paiement Mooncard? Alors, ça marche comment?
Concrètement, on a pris le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait simplement une application qui optimise, qui digitalise. Nous, on a voulu tuer le problème, et pour tuer le problème, on a voulu partir d'une carte de paiement. Donc c'est une carte de paiement qui permet de payer tout simplement partout, c'est Mastercard. Et le collaborateur, déjà, n'a plus avancé l'argent, donc c'est appréciable. Et tout est pré-rempli, il prend juste en photo de justificatif, parce qu'il faut quand même des pièces comptables. Et derrière, ça passe dans des tuyaux, on pré-saisit tout pour la comptabilité. Donc, en fait, les directeurs financiers nous adorent, on en est très fiers. Et toute l'entreprise, globalement, gagne du temps.
Mais en quoi est-elle différente d'une carte de paiement professionnelle? Parce que dans plein d'entreprises, certains collaborateurs ont des cartes de paiement pour payer, pour pas avancer les frais. En quoi vous vous différenciez?
Alors déjà, il y a assez peu de cartes de paiement en France, parce que donner une carte de paiement à un collaborateur, ça arrive assez rarement, ça arrive dans les grandes entreprises, mais assez peu dans les PME ETI. Et derrière, au fait, c'est une carte de paiement qui n'a aucune valeur ajoutée, parce que vous payez, ça débite en général sur le compte du collaborateur. Donc en termes d'avance d'argent, on n'est pas plus avancé. Et au niveau comptable, c'est les comptables qui derrière prennent le relevé.
Donc vous, c'est surtout le gain de temps qui vaut le
confort et la charge mentale supprimée pour le collaborateur et puis pour l'entreprise dans son ensemble.
Riyad Boulanoir.
Ouais, non, c'est intéressant parce qu'ils ont digitalisé toute la chaîne des notes de frais, parce que moi aussi je l'ai vu dans les entreprises, effectivement, vous donnez pas une carte comme ça, parce qu'une carte c'est engageant, là il y a des moyens de contrôle. Effectivement, tous les justificatifs papier maintenant, en 2020, on peut le digitaliser.
Oui.
Et derrière, après, il y a les gens qui vont contrôler les notes de frais, qui vont les valider ou pas les valider. Et donc, effectivement, il y a toute une chaîne. Donc là, ils l'ont intégré dans. C'est astucieux. Donc vos clients, en fait, c'est les entreprises.
Ce sont les entreprises. Et le changement qu'on a fait, c'est qu'on a une carte, la première carte, qui est totalement pilotable. C'est-à-dire qu'on peut régler les droits. Le manager ou l'entreprise peut dire telle carte ne permet pas de retirer de l'argent ou ne permet pas de prendre de l'essence ou au contraire permet de payer sur Internet.
On peut mettre des seuils aussi
Des
à
seuils
cette carte.
Par jour, on peut dire tel collaborateur, il n'a pas le droit de payer le week-end. Et ça, cette technologie de paiement n'existait pas en France. Les banques ne savaient pas faire. Et on est les premiers à faire ça pour apporter quand même du contrôle aussi pour l'entreprise.
Vous avez été les premiers à les faire. Aujourd'hui, Mooncard, c'est 40 salariés quand même.
Oui, 40 salariés, on a
vous
à peu près
des emplois.
Absolument. x2, x3 par an, c'est un peu notre tendance de croissance. Et voilà, notre combat, c'est vraiment d'aller adresser tout le quotidien d'entreprise, comment j'enlève progressivement les différentes tâches de charge mentale dans l'entreprise.
Donc charge mentale, dedans il y a la note de frais. Il y aura d'autres choses dans vos projets ?
Alors, on vient de lancer justement une version X de notre carte, la Mooncard X, en ayant, attention, non, c'est comme SpaceX, iPhone X, évidemment, c'est un peu la tendance à la mode. Et on a cherché d'autres sujets dans l'entreprise, et notamment le fait d'avoir un assistant personnel, donc une personne en chair et en os, qui réponde à vos demandes du quotidien. Donc c'est quoi ? C'est organiser un séminaire, c'est trouver...
Donc des services de conciergerie.
Des services de conciergerie, mais accessibles à tous. C'est-à-dire pas réservé, je dirais, à une élite, à des dirigeants, mais à tout le monde, à un cadre qui a des problèmes professionnels, enfin qui a besoin de gain de temps, voire personnel. Voilà, trouver un plombier, trouver une babysitter, démocratiser vraiment ce type de service.
Ça s'appelle Mooncard, c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous la présenter, je suis sûre que ça va parler à beaucoup, beaucoup de monde, évidemment.
Merci. Il est midi 57.
Europe 1.
Et on va se retrouver dans quelques minutes pour parler e-réputation, photos, vidéos, insultes, mauvais avis. On voit de tout circuler sur les réseaux sociaux. Ont-ils pris le pouvoir et peut-on véritablement s'en protéger ? Des acteurs français y travaillent pour nous aider à sauvegarder notre réputation. Ce sera le dossier du jour sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez cet après-midi dans La France bouge. Ici, vous savez qu'on aime regarder ce qui se passe autour de nous, sentir les changements qui se profilent, les ausculter, mettre en avant aussi ceux qui voient les tendances émerger, qui ont un coup d'avance et qui se lancent. Avec justement l'émergence des réseaux sociaux, l'information circule de plus en plus vite. Les mensonges, les rumeurs aussi, les avis, pas toujours flatteurs également. Mais ça peut aller loin, très loin, jusqu'au harcèlement et des personnes, vous, moi, n'importe qui, peut en faire les frais. Or, il existe des moyens de se protéger. Bonjour Jean-Christophe Gatuin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs et co-président de Visibrain. Tout démarre pour vous et Visibrain en 2009, c'est-à-dire il y a 11 ans maintenant. Alors, on va peut-être tout simplement remettre les choses dans leur contexte. Twitter était encore à ses débuts.
Tout à fait. En 2009, Twitter, ça existe. Il y a quelques premiers utilisateurs en France, un peu plus aux États-Unis, mais c'est pas encore
c'est
connu
balbutiant.
Du grand public. Ça arrivait plus en 2012 avec les élections présidentielles où les choses sont accélérées, mais en 2009 c'est encore confidentiel.
Et vous percevez qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ce petit oiseau
moi
bleu.
Moi et mes deux associés, Nicolas Huguenin et Samuel Coupé, on est trois amis. On s'est rencontrés pendant nos études. Et il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien tester
toutes les nouveautés.
J'étais sur des forums, etc. Et j'avais vu Twitter, donc je me suis inscrit assez tôt sur Twitter. Et au début, je me suis inscrit et bon, je me suis dit ça sert à rien. Et après, j'ai compris j'ai vu Twitter finalement comme un fil de dépêche. Et ce qui était intéressant, je faisais ma veille en fait sur Twitter. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait l'information qui défilait.
Donc pour vous, c'était une manière de s'informer plus rapidement.
Exactement. Le fil de dépêche. Il y avait quand même quelques blogueurs, quelques journalistes qui postaient sur Twitter. Et donc j'ai suivi comme ça de plus en plus de personnes. Mon associé Nicolas, lui, il se trouve qu'il était en semestre aux États-Unis. Il voyait que Twitter
prenait
ça décollait.
L'ampleur.
Exactement. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est intéressé à Twitter. Et puis plus particulièrement même à cette idée d'analyse un peu de données. Samuel, le troisième, est assez passionné d'analyse de données. Et moi, j'avais une frustration à titre personnel, parce que même s'il n'y avait pas encore beaucoup de monde sur Twitter, dès qu'on s'abonne à pas mal de comptes, on a un flux qui défile très vite. Et puis, si on coupe, parce qu'une après-midi, on a loupé ça. Et j'avais envie d'avoir...
On a une perte d'informations. Et vous aviez envie d'avoir quelque chose qui puisse vous abreuver, finalement. Donc, vous commencez à travailler à l'idée d'un logiciel
Exactement.
Qui soit personnalisé, c'est
Exactement.
Ça
Exactement. Alors, l'idée, c'est...
Faire du sur-mesure.
Au début, c'était vraiment pour... on pensait vraiment pour un individu comme moi, un utilisateur de Twitter, avoir un petit résumé en fin de journée de ce qui s'est passé sur son fil Twitter. Avoir le top tweet, une petite idée des hashtags qui ressortaient. Et au début, c'était vraiment une problématique personnelle, avoir son résumé. Et on a commencé, on a bidouillé hein, avec dans le garage, non c'était pas dans le garage mais c'était un peu en parallèle des
cours. De manière un peu artisanale, oui.
Exactement. Et on s'est rendu compte que ce qu'on en sortait c'était très intéressant parce que au début c'était sur mon compte qu'on testait.
Oui parce que vous vous apercevez assez vite que finalement les sujets que vous repérez c'est les sujets qui vont probablement faire la une des journaux le lendemain.
Exactement. C'est-à-dire qu'au début on prenait mon compte et puis après on s'est mis à mettre des mots-clés et ou même regarder un peu le, sur le flux français quelles étaient les tendances. Et on voyait, ben, en fait, nous, le, les tendances, on les avait un, deux, voire plusieurs jours avant que ça, ça émerge. Parce qu'effectivement, ben, et finalement, plus Twitter était utilisé, plus il y avait de journalistes présents, de politiques, et plus, plus on était en amont de la tendance comme ça. Et c'est vraiment comme ça qu'est venue l'idée de Visinrain. Après, ben, après
en 2011, dit, voilà, oui, vous dites, dit, ça, va... ce qui nous intéresse, nous, va sûrement intéresser les entreprises aussi.
C'est ça. Et en fait, on est allé, bah, après, il y a une réalité de dire, bah, c'est bien ça, mais il faut, faut le vendre, ce logiciel, si on veut en créer une entreprise. Et c'est vrai qu'ensuite, on s'est, on a une, peut-être une lecture un peu différente. C'est qu'on s'est dit, bah, c'est ces changements qu'il y a dans la manière dont la, circule l'information, c'est vraiment un changement important. Twitter et de manière générale, les réseaux sociaux, c'est quand même des volumes énormes. C'est une vitesse qui s'accélère énormément. Hein.
Oui, et puis n'importe qui devient un média.
Exactement.
N'importe qui peut propager un bad buzz,
exactement.
Comme on dit.
C'est exactement.
Faire
c'est...
une mauvaise réputation. La faire ou la défaire, d'ailleurs.
Tout à fait.
Mais elle est plus facile à faire qu'à défaire.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des... Maintenant, on appelle ça des influenceurs, mais n'importe quel individu qui peut prendre la parole. Donc, ça fait beaucoup de volume, ça fait beaucoup de canaux à regarder. Et ça, c'est des opportunités de communication pour les marques, parce que, bah, comme je disais, les nouveaux influenceurs, des fois, ça peut être intéressant de faire des partenariats très tôt avec des gens qui sont peut-être les nouveaux médias de demain. Mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, des risques avec ce fameux risque de bad buzz. Et un bad buzz, bah, quand il éclate et s'il continue à se propager, bah, ça peut laisser des taches indélébiles dans la réputation d'une marque.
Alors justement, Elisabeth, c'est quoi la e-réputation ?
La e-réputation, c'est d'abord une perception. C'est la perception qu'ont les personnes qui sont sur Internet, comme on dit, les internautes de votre entreprise, de votre marque, si vous avez une marque, ou de vos employés, ou de vous-même, si vous êtes actif sur les réseaux. Elle est donc une représentation que les internautes vont se constituer en fonction de ce qu'ils vont voir, en fonction des flux d'informations qu'ils rencontrent en surfant comme ça en ligne. Et l'impact peut être très fort, notamment quand vous êtes patron d'une entreprise, parce qu'une étude a montré qu'un seul avis négatif peut vous coûter 30 clients. Un seul avis.
Riyad, notre coach.
Ouais, bah, moi, ça me laisse songeur, tout ça, parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment un monde parallèle. Ceux qui ne sont pas dessus ne comprennent même pas de quoi on parle. Où on dit, ah, ils se sont fait clasher sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on n'en nomme pas un. Twitter en est un, mais il y en a d'autres.
Tout à fait.
Les Facebook, les Insta, les Snap, etc. C'est marrant, cette ampleur que ça prend, cette rapidité de la communication qui va, où pour la première fois, la vitesse de communication a dépassé la vitesse de réflexion. Mmh. Donc, ouais, avec une façon un peu à relayer, à retweeter, tout est fait pour vous rendre actif. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien à dire, vous pouvez être actif et retweeter un truc que vous trouvez sympa.
C'est une façon de donner votre avis et d'exister.
Voilà, j'ai l'impression qu'il a demandé son avis un peu à tout le monde, en plus de façon anonyme. C'est-à-dire que personne ne met son vrai nom là-dedans. Ça permet certaines libertés. Je ne sais pas, je pense qu'il y a du bien et du moins bien. Il y a les deux mondes qui se côtoient à travers ces réseaux sociaux, quoi.
Vous êtes d'accord, hein, effectivement, ces deux mondes se côtoient. Et du coup, il y a aussi une influence qui change très vite. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez choisi de faire Visibrain. Parce qu'aujourd'hui, on peut finalement, en anticipant, faire changer les choses.
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que c'est exactement ce que vous dites. C'est que ça va vite, tout le monde donne son avis. Et alors, que ce soit bien ou mal, à la limite, c'est une réalité. C'est que, je veux dire, on l'a vu, il n'y a eu pas si longtemps que ça, l'affaire du slip français. Je pense que tout le monde l'a encore en tête. Ça allait très, très vite. Et donc, bah, quand donc nos clients, c'est les directions de la communication. Quand on est dans le département communication d'une marque, bah, il y a un enjeu quand même à pas être pris au dépourvu, pas arriver quand rentrer chez soi et apprendre la même chose.
Il faut anticiper,
exactement.
Avant que ça n'éclate sur les réseaux sociaux.
Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que justement notre logiciel, il va être là pour aider aussi à prendre du recul. C'est-à-dire que nous, vraiment, c'est un tableau de bord qui permet d'avoir une synthèse, d'avoir des chiffres et de par exemple dire ah oui, là effectivement, il y a beaucoup de tweets, il y a beaucoup de likes, c'est un vrai sujet. Et au contraire, des fois, il y a des choses, parce qu'on a vite aussi cette idée de bulle de filtre. On peut, quand on est connecté justement en temps réel, on peut vite voir défiler les messages et avoir l'impression que c'est très grave, alors que ça ne l'est pas forcément. Et ça, c'est vraiment ça que sert notre logiciel. On prend du recul, on est au courant dans les premiers, et du coup,
et
là, on a le temps de réfléchir pour voir ce qu'il faut faire, s'il y a des choses à faire. Voilà, être à l'écoute de nos clients. Et voilà.
On reste ensemble et on continue à parler e-réputation aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h20. Europe 1.
Vous serez d'accord pour dire que la e-réputation est aussi liée au référencement des articles, à la manière dont on peut faire disparaître des contenus. C'est une des missions d'Eskimos. À tout de suite. Dans la France Bouge cet après-midi, on parle de l'irréputation, de la notoriété numérique qui peut constituer un avantage concurrentiel dans le cas des marques. Vous êtes concerné, vous avez l'habitude par exemple de noter les endroits dans lesquels vous vous rendez, restaurants, musées ou autres. Eh bien dites-le nous via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921 Raphaël.
Quand on fait une recherche sur un moteur, saviez-vous Céline que 90% des gens s'arrêtent à la toute première page et ce sont les trois premiers noms qui sont référencés tout en haut, hein, qui enregistrent en fait plus de la moitié des clics, d'où l'importance d'être vu et bien vu, et surtout que le contenu soit positif. Bonjour Andréa Ben Saïd.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Eskimos. Vous avez lancé votre entreprise alors que vous étiez encore en train de finir vos études, je crois. Vous êtes d'ailleurs resté en freelance pendant 5 ans. Pourquoi avez-vous choisi ce qu'on appelle aujourd'hui le référencement naturel ? Qu'est-ce qui vous a paru important ?
J'étais passionné par le référencement naturel dans le sens où c'est une science qui permet de générer beaucoup de trafic de manière gratuite. Donc c'est sûr, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on peut vite avoir le souci de devoir investir en publicité. Ça a tout de suite des coûts importants. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises, je pense, lever des fonds. Le SEO, c'est la bonne solution pour développer son entreprise, mais à faible coût.
SEO, c'est le référencement naturel.
Search Engine Optimization, c'est le bon positionnement sur Google.
Alors, vous êtes développé comment ? Comment est-ce que vous avez mis en place ce système qui fonctionne aujourd'hui avec Eskimos ?
Alors, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans la technique pour que tout le monde comprenne bien. Mais
c'est gentil.
En fait, on fait du test and learn. Notre métier, c'est d'essayer de décrypter l'algorithme de Google. Donc, on va tester plein de choses. Il y a plusieurs centaines de critères dans l'algorithme. Dès qu'on trouve qu'un critère fonctionne, on l'enregistre dans notre base de données. Et en fait, aujourd'hui, la force d'Eskimos, c'est d'avoir, en quelques mots, compris comment fonctionne l'algorithme de Google.
Donc votre rôle, si je schématise, c'est de faire monter ou redescendre, cacher des contenus,
exactement,
mettre d'autres en avant.
Exactement,
c'est
comme
ça
vous l'aviez dit, il y a 60% des clics qui sont faits en top 3. Donc si vous n'êtes pas en top 3, déjà vous n'êtes pas très visible. Et si vous êtes hors de la première page de Google, vous êtes presque invisible parce qu'il y a moins de 5% des clics. Et c'est pour ça qu'il y a des sujets importants sur la e-réputation. S'il y a un mauvais article qui parle de vous, par exemple en premier résultat, ou en deuxième ou en troisième, vous allez être très exposé et tous les gens qui vont taper votre marque ou même votre prénom et votre nom, parce que ça marche aussi pour les personnes physiques,
oui,
vont tomber sur ces mauvaises informations et ça peut avoir des préjudices très importants. On peut imaginer par exemple une société qui vendrait par exemple des villas de luxe ou des maisons en centaines de milliers d'euros. Un mauvais article pourrait susciter le fait que personne n'irait pas au bout de leur acte d'achat. Donc il peut avoir des gros impacts sur le chiffre d'affaires. Et sur les personnes physiques, il peut y avoir un gros impact aussi. On sait que les recruteurs aujourd'hui vont taper votre prénom et votre nom dans Google pour prendre leur décision finale. Si il y a une mauvaise actualité sur vous ou quoi que ce soit, ça peut vraiment nuire à votre carrière aussi.
Et alors, comment est-ce que vous faites ? Vous créez d'autres marques qui ressemblent, d'autres mots-clés qui vont venir, si j'ose dire, noyer un petit peu
exactement
le poisson ?
Alors, il y a plein de choses. Pour les personnes physiques, il y a une loi qui a été votée par la Cour de justice européenne en 2014 qui s'appelle le droit à l'oubli.
Oui.
Donc, vous pouvez faire une requête directement.
Mais
Google
va marcher pour moi, par exemple ?
Pour une personne physique, ça peut marcher pour vous.
Mais pas pour une personne morale.
Pour une personne morale, c'est différent et c'est là où ça devient compliqué. Pour une personne morale, il n'y a pas de recours auprès des moteurs de recherche. Donc, si vous avez un mauvais article, vous êtes un peu bloqué. Donc, on sait que le seul recours, il est juridique. On va pouvoir prendre la diffamation.
Ça va prendre du temps devant les tribunaux.
La diffamation, c'est complexe déjà parce que c'est subjectif. Est-ce que c'est de la diffamation ou ça relate des faits réels ? Ensuite, les sanctions sont faibles par rapport au préjudice qu'on va avoir. Et enfin, il y a une préemption de 3 mois. Si vous vous rendez compte de cet article 3 mois après, l'article, vous ne pourrez jamais le supprimer. Et donc, c'est là que nous, Eskimos, on intervient. On va justement, quand ces articles sont bloqués en première page de Google, nous, on va faire une stratégie qu'on appelle de déréférencement ou d'enfouissement. En fait, on va positionner un maximum de nouveaux articles, des vidéos, des réseaux sociaux, de nouveaux articles sur d'autres médias pour remplacer cet article. Et en fait, on veut faire descendre cet article en page 2 parce qu'en fait, en page 2, on a déjà fait plus de 90% du travail vu que personne n'y va. Et ensuite, si on le passe en top 3, alors là, c'est fini, vous avez tout gagné. Donc ça, c'est notre travail. Sinon, il y a d'autres stratégies qu'on va appeler des stratégies de remplacement en cas de bad buzz. Je pense à l'histoire de Eric Worth qui avait eu des gros soucis par rapport à ses fraudes fiscales. Et tout le monde, je pense, se rappelle aujourd'hui plutôt de son bad buzz sur le fait qu'il escaladait une montagne à quatre pattes. En fait, c'est une montagne horizontale.
Bien sûr.
En train de gravir une montagne. Et voilà, les bruits de couloir dans nos métiers disent qu'ils auraient remplacé ce bad buzz, on va dire de niveau 5, par le bad buzz de
la
fraude fiscale.
Il y a des niveaux
Il y a des niveaux
dans le bad buzz.
C'est-à-dire qu'un bad buzz de fraude fiscale qui peut être sanctionné pénalement, je pense qu'un homme politique aujourd'hui a plus intérêt à que ce soit la risée pour le fait qu'il ait menti sur le fait qu'il escalade. Il a vraiment les compétences pour escalader une montagne plutôt que ses fraudes fiscales. Enfin, c'est mon avis.
Elisabeth, justement, l'entreprise doit à tout prix éviter ce fameux bad buzz.
Oui, cette fameuse mauvaise réputation. Et ça, pour cela, il faut que, quel que soit le média social, l'entreprise doit être en mesure de ne manquer aucune information pouvant entraîner un bad buzz, cette crise de réputation. Et c'est important de mettre en œuvre une veille sur Internet, hein, et c'est ce que vous faites pour détecter le moindre frémissement d'une polémique. Et en revanche, la gestion de ce bad buzz, là, elle est hyper importante parce que il faut l'entreprise met en jeu son image aussi. Donc, il faut qu'elle conserve sa culture d'entreprise, ses valeurs, son image, son ADN, comme on dit. Et donc, à ce moment-là, il y a quelques petites choses à garder bien en tête. Toutes les réponses vont se faire via le community manager donc qui va être en ligne et qui va détecter toutes les mauvaises choses qu'on dit sur l'entreprise. Et là, il faut toujours faire preuve d'honnêteté, reconnaître immédiatement s'il y a eu une erreur. Hein, je pense notamment avec nos entreprises de transport, nos entreprises de livraison qu'on peut contacter sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir une mauvaise réputation. Là, il faut que le community manager assure à 100% pour ne pas dégringoler la e-réputation de l'entreprise.
On reste ensemble et on continue à parler e-réputation dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h29. Europe 1.
Et on va s'intéresser à une troisième entreprise qui est avec nous aujourd'hui et qui s'est d'abord spécialisée dans le tourisme, mais pas seulement aujourd'hui, c'est Guest Suite. À tout de suite.
Créateur d'entreprise, lancez-vous, la France bouge avec BNP Paribas. La réputation numérique est aujourd'hui incontournable pour certaines entreprises et se façonne par la mise en place d'éléments positifs et la surveillance des éléments négatifs sur Internet. On en parle cet après-midi dans la France bouge. Si vous souhaitez réagir, posez vos questions à nos invités, c'est possible. Vous nous écrivez via Twitter #Europe1, vous nous appelez au 3921.
On a tous déjà été regardés, c'est vrai, hein, les avis pour tel restaurant, tel hôtel, avant de le choisir pour aller dîner ou pour nos vacances. C'est dire si ce qui est écrit peut influencer nos choix. Bonjour François-Michel Estival.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et cofondateur de Guest Suite. En 2005, vous avez commencé par lancer une première entreprise qui était spécialisée dans le référencement des voyages, justement. À l'époque, les voyagistes voulaient ramener le fameux trafic sur leur site contre rémunération. Et puis en 2010, vous lancez autre chose, Mon Nuage, puis WeLie Travel, une agence social média pour les destinations touristiques. Qu'est-ce qui se passe en 2014? Vous vous dites qu'il y a autre chose à faire?
Exactement. En 2014, c'est un peu l'avènement de... On parle beaucoup d'irréputation.
Oui.
C'est l'avènement de l'impact de l'irréputation sur les modèles économiques. Et j'ai vécu une expérience assez particulière dans un hôtel où, lorsque je suis sorti de l'hôtel, j'ai senti la personne de l'accueil me demander avec insistance de déposer un avis sur TripAdvisor. Et là, je me suis dit qu'il y avait un chaînon manquant, finalement. Il y avait une douleur émotionnelle, une douleur forte, et leur business était corrélé fortement aux avis clients. Et ils ne disposaient pas d'outils pour reprendre la main sur les avis de leurs clients. Donc, il y avait une forme de dépendance, on parlait tout à l'heure de dictature de l'avis client. Et la jeunesse de Guest Suite, c'est comment justement redonner la main, le pouvoir, à toutes ces entreprises dont une partie du business est dépendante des avis clients.
Donc, vous jouez, vous, aujourd'hui, le tiers de confiance?
On joue exactement. Alors, on joue le tiers de confiance. On part du principe qu'une entreprise, elle a forcément des clients satisfaits. Elle existe, elle vit. Et cette entreprise, elle a le droit de capitaliser sur la satisfaction de ses clients. Et aujourd'hui, il faut pour cela qu'elle s'outille, comme Guest Suite, d'un outil qui va aller interroger en post-expérience l'avis de ce client pour ensuite collecter de l'avis et le diffuser. Et de cette manière-là, on se prémunit. Alors, tout à l'heure, on parlait de forteresse. Premièrement, on se prémunit déjà des mauvais avis, puisqu'ils vont être noyés dans une masse d'avis positifs. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le fait de mettre en place une stratégie d'avis client, d'écoute client, c'est une opportunité business formidable. Aujourd'hui, tout le monde autour de la table, ici 90% des Français, ont consommé des avis clients l'année dernière.
Oui.
Et 85% d'entre eux ont fait un choix par rapport aux avis clients. Donc, lorsque l'on maximise sa notoriété au travers des avis clients, on maximise de facto son chiffre d'affaires.
Donc, ça signifie qu'on peut négocier les avis, finalement, et qu'on
Non, on ne négocie surtout pas les avis. L'idée, c'est de se dire que pour qu'une entreprise ait des bons avis, il faut qu'elle systématise et qu'elle soit jugée à sa juste valeur. Il faut qu'il y ait de l'authenticité dans les avis clients.
Mais qu'est-ce que vous faites des mauvais avis?
Alors, justement, les mauvais avis sont extrêmement importants pour plusieurs choses. Les mauvais avis, déjà, ils existent par nature parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, il faut l'assumer. La deuxième chose, c'est que les avis négatifs, ils vont crédibiliser la masse d'avis positifs. ils vont rendre les avis positifs crédibles. Et la troisième chose, c'est que les avis négatifs, ils servent à l'entreprise pour s'améliorer, tout simplement. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de... Alors là, je vais faire rire mon associé, mais du marketing de l'enchantement. Mais aujourd'hui, les entreprises se doivent d'apporter un service qui enchante leurs clients et qui doit se retranscrire après sur les avis clients qui parlent de cette entreprise. Donc, clairement, simplement, les entreprises aujourd'hui, quand elles cherchent à acquérir des clients de manière digitale, donc par le web, on fait une recherche, vous faites une recherche artisan Paris, couvreur Paris, dentiste Paris, garagiste Paris. Elles vont ressortir ces entreprises dans Google Maps ou une fiche Google My Business. Et là, elles doivent être attractives. Et pour ça, il faut mettre en place des moyens comme le nôtre pour pouvoir maximiser la satisfaction client.
Riyad Boulanoir, notre coach.
Ben moi, je suis étonné. C'est vrai qu'il y a une dictature des avis. Ce qui m'étonne aussi, c'est que les avis, je me dis qui les dépose. En fait, c'est toujours les extrêmes. C'est celui qui est content ou celui qui n'est pas du tout content. Moi, personnellement, je note jamais mes restaurants. Mais néanmoins, j'ai beau le savoir, je suis comme tout le monde. Je fais ma recherche sur Google Maps. Je regarde le nombre d'étoiles. Comme je suis plus malin, je regarde aussi le nombre d'avis. Et puis, une fois que je suis encore plus malin, je rentre dedans et je regarde les avis négatifs, ce qui est à peu près ce que certainement vos auditeurs font également. Voilà.
J'espère,
et
oui.
on a l'impression d'avoir trouvé la pépite. Et en fait, je m'aperçois que je suis complètement soumis à cette dictature des avis qui sont, pour moi, l'avis des extrêmes. On note les extrêmes, ceux qui sont hyper contents et ceux qui ne sont pas du tout contents. Mais le mass market, là, tant qu'on ne l'aura pas systématisé, mon avis n'est pas représenté là.
Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible justement de le systématiser?
Le fait d'automatiser la collecte d'avis, on ne s'adresse plus aux extrêmes de la personne qui est extrêmement heureuse et qui va déposer un avis et de la personne qui est extrêmement insatisfaite et qui va déposer un avis. On va s'adresser à des personnes qui ont vécu une expérience. Et dans cette expérience, il peut y avoir un service très agréable, un conseil particulier et une petite insatisfaction. Et donc, on va plus facilement tomber sur des 6, des 7, des 8 ou des 3, 4 sur 5. Donc là, il y a de l'intermédiation, des notes intermédiaires qui arrivent. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça prouve qu'il y a une éducation des consommateurs qui aujourd'hui recherchent du volume, de la fraîcheur et des notes intermédiaires pour pouvoir se projeter sur ces personnes qui ont mis des notes intermédiaires. Est-ce que ce profil me ressemble? Et s'il a été satisfait, alors je ferai plus confiance à cette entreprise.
Alors justement, Elisabeth, est-ce qu'il faut encore croire les fameux avis en ligne pour les hôtels comme TripAdvisor ou Booking, par exemple?
Déjà, TripAdvisor, on peut le dire, hein, c'est incontournable. Hein, plus de 760 millions d'avis sur des bars, des restaurants, des hôtels, du monde entier. On l'a tous fait autour de la table, hein, franchement,
oui,
on peut le dire.
Oui.
Et pour nos auditeurs. Et donc, ça devient incontournable. Hein, on ne peut pas réserver, comme le disait Riyad, une table de restaurant ou un hôtel sans aller voir sa réputation. Pourtant, vous vous souvenez peut-être d'une expérience qui a été menée il y a 2-3 ans par un journaliste anglais qui a réussi à faire grimper un restaurant totalement fictif à la première place du classement londonien. Face à cela, donc évidemment, là, on s'aperçoit que n'importe quel avis peut faire grimper ou dégringoler une note. Et pourtant, l'entreprise américaine, TripAdvisor, assure que chaque avis soumis passe un examen pour analyser comment, pourquoi ou quand a-t-il été envoyé. Avant la publication, apparemment, ils utilisent une technologie, c'est ce qu'ils disent, avancée de détection de fraude adaptée du secteur bancaire. Est-ce vrai?
C'est pas vrai. Pas complètement. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est des normes françaises, des normes européennes auxquelles ces grands acteurs mondiaux adhèrent.
Et puis arrêter l'anonymat, tout simplement.
Alors ça, c'est encore un autre sujet. Mais déjà, la première chose, c'est qu'en France, il existe une norme AFNOR, il y a une norme européenne qui se prépare. Mm-hmm. L'idée, c'est comment faire en sorte que ces grands acteurs acceptent d'adhérer à ces normes-là sans que ça porte préjudice à leur business model. Leur business model, c'est du contenu. C'est de la vie, c'est de la vie, c'est de la vie, c'est de la vie. Donc, ils le vérifient de manière assez automatisée et assez peu humaine. Mais ils doivent tendre vers ça parce qu'on prend TripAdvisor. TripAdvisor est en train de se faire manger par Google My Business. Donc, ils doivent se remettre en cause, tous ces acteurs-là.
On continue à débattre d'ici quelques instants sur Europe 1. Il est 13h39.
Europe 1.
Et on attend vos questions. Je suis sûre que vous en avez sur Twitter, hashtag Europe 1. Et au 3921, la France bouge avec vous. A tout de suite.
On parle de e-réputation, de réputation numérique cet après-midi dans La France bouge avec vos invités, Raphaël.
Nous sommes avec Jean-Christophe Gatuin, cofondateur de VisiBrain, avec François Estival qui dirige Guest Suite et avec Andrea Ben Saïd qui dirige Eskimos. Notre coach, c'est Riyad Boulanoir, cofondateur du compte Nickel et fondateur de la méthode Boulanoir. Nous sommes bien sûr avec Elisabeth Assayag. Elisabeth, tiens, je voulais vous poser une question. Comment on nettoie son passé sur Internet?
Mais vous savez qu'il existe des sociétés privées qui proposent choses, de nettoyer votre passé sur, sur Internet pour mieux gérer votre réputation numérique. Si vous trouvez, si quand vous tapez votre nom, vous trouvez qu'il y a trop de choses pas très sympas écrites sur vous, vous pouvez solliciter ces sociétés. Ça coûte entre quelques centaines et quelques milliers d'euros. Je pense aussi pas forcément aux personnes physiques, mais aussi aux entreprises. On a aussi le droit de demander à un hébergeur de retirer un contenu que l'on ne trouve pas approprié. La règle d'or, évidemment, ça reste la prudence. Il ne faut pas poster des choses très intimes, même des photos en maillot de bain, on peut le regretter, parce qu'on ne voit jamais le danger sur les réseaux sociaux. On croit qu'il n'y a que des amis autour de nous.
Nous avons une question sur Twitter, justement,
oui,
hashtag Europe 1.
Exactement. La e-réputation est de plus en plus utilisée dans le domaine du recrutement. Que dit la loi à ce sujet? Les entreprises peuvent-elles utiliser tout ce qu'elles trouvent sur Internet?
Mais qui veut répondre?
Alors moi, j'aimerais bien rebondir justement aussi sur le sujet d'avant, parce que c'est un peu lié.
C'est totalement lié.
C'est marrant qu'il y ait des entreprises qui fassent payer des centaines d'euros, voire des milliers, pour retirer des articles qui parlent de personnes physiques, étant donné qu'il y a une loi dont je parlais tout à l'heure, qui a été voté en 2014, qui s'appelle le droit à l'oubli. Donc, vous pouvez faire une requête gratuitement auprès de ces moteurs de recherche pour qu'ils l'enlèvent.
Elle n'est pas un peu longue à
appliquer.
Alors,
le problème, c'est qu'il y a eu des études qui sont sorties. Il y a une requête sur deux qui aboutit.
Bah ouais.
Moi, la technique que je recommande, c'est de multiplier les requêtes. Si vous en faites 10 avec les lois statistiques, normalement, vous avez une chance qu'à un moment donné, elle passe.
Mais c'est quand même grave
de devoir en arriver là.
Oui, mais c'est déjà. Oui, mais en tout cas, c'est quand même un recours qui est gratuit par rapport aux entreprises qui n'ont aucun recours. Et donc pour revenir sur les recruteurs, effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet de vulnérabilité des personnes physiques. Aujourd'hui, quand on ne travaille pas sa e-réputation, on est vulnérable de fait parce qu'en fait, il n'y a aucun résultat sur nous. Du coup, il suffit d'écrire un article pour qu'il remonte en première position directement.
Donc, vous encouragez tous les trois à justement vérifier et bien border sa e-réputation.
Il y a l'attractivité de l'entreprise en tant qu'employeur qui est extrêmement importante à travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un marché où sur nos métiers, en tout cas à nous, le marché est très tendu. Trouver des talents, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de choix. Et donc, l'entreprise doit être attractive. Donc, nous-mêmes, on doit être capable de mettre en avant notre savoir et d'avoir une bonne réputation.
Mais par exemple, quand une vidéo devient virale, je pense à une entreprise ou une personne, une célébrité, vous conseillez de la retirer, d'apporter de se défendre
De mettre la tête dans le seau et d'attendre que ça passe.
C'est quoi la meilleure méthode?
Pour revenir sur le sujet de la vulnérabilité, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est important, même sur les vidéos, etc., de toujours. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est beaucoup plus simple de se projeter.
Oui, mais si le mal est fait.
Si le mal est fait, YouTube appartient à Google, ça a été racheté, donc il y a la même requête pour potentiellement supprimer la vidéo, si c'est une personne physique.
Mais est-ce que c'est opportun?
Est-ce que c'est opportun?
Une fois que le mal est fait.
Ça dépend. Il y a aussi la solution dont je vous ai parlé. Alors là, c'est des solutions vraiment professionnelles qui sont de remplacer, on en parlait tout à l'heure, un bad buzz par un autre pour que justement la vidéo soit un peu enfouie. Mais non, après, à un moment donné, une gestion de crise, il faut aussi, je pense, à un moment donné, l'affronter, y répondre. Ça dépend de la stratégie, c'est une question de stratégie ça.
Et en tout cas, ce sont des métiers qui se développent de plus en plus, hein, on le voit avec vos trois exemples aujourd'hui.
Ouais, et puis moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on pose beaucoup de questions sur les gestions de crise, alors que les réputations est une gestion d'opportunité. Il faut le garder en tête, ça, pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, leur attractivité, elle dépend de leur e-réputation.
Et oui, parce que c'est de la visibilité.
Exactement.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler e-réputation aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Il est 13h45.
Europe 1.
Et on reste ensemble dans quelques minutes. On va s'intéresser à une entreprise qui existe depuis 2004. Elle s'est imposée comme un des experts dans la technologie du parfum, Santis, et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Oui, et cette entreprise, c'est Santis. Bonjour Pierre Lustric.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette marque française qui est experte dans ce qu'on appelle la technologie du parfum. Votre métier, c'est de nous proposer tout simplement des expériences olfactives. Votre spécialité, si on schématise, c'est de diffuser en fait tout simplement des parfums dans l'air, mais avec des techniques très modernes.
Exactement. Donc, l'entreprise a désormais 16 ans, en fait. Donc, moi, je l'ai rejointe il y a 4 ans voilà, pour rejoindre le fondateur, David Suissa, voilà, qui est un brillant ingénieur polytechnicien, mais à la fois très amoureux du parfum. Donc, il a voulu conjuguer, en fait, la froideur de la technologie avec l'émotion du parfum, un mélange un peu de yin et de yang.
En 2004, c'est là qu'il commence à réfléchir.
En sortant des bancs de l'X, en fait, ce garçon aimait à la fois les parfums et était allergique. Et en fait, il a inventé donc ce système de capsules de parfums qui ont le principe de ne pas avoir ni solvant ni alcool. On va partir du concentré pur de parfum sans aucune adjonction et on va encapsuler ça dans ces petites perles de parfum, elles-mêmes contenues dans une capsule, c'est comme ça qu'on la définit. D'autres pourraient l'appeler une recharge ou une cartouche. Et voilà, donc, et l'air va traverser ces capsules, comme sont des petites sphères, elles vont se gorger finalement de parfum comme une éponge, et dans notre jargon, elles vont désorber progressivement en 50 heures, ce qui est la durée d'une bougie parfumée finalement.
Ça signifie que vous remplacez la fameuse bougie parfumée, mais avec une solution qui est absolument sans nocivité pour les personnes qui sont dans la pièce, et tout est véhiculé par l'air.
C'est tout à fait ça. Donc il y avait deux axes finalement. Donc le premier, comme vous le disiez, est ce côté santé-sécurité. Donc il y a beaucoup de gens, en fait, on a commandité une étude récemment, et 75% des Français parfument quand même leur intérieur. C'est quand même beaucoup, mais il y a aussi une frange de gens qui sont allergiques et qui ne parfument pas leur intérieur à cause des produits actuels, les bougies, l'encens, les bâtonnets, tout ce que consomme par définition en chimie est nocif. Et donc finalement, avec ce diffuseur où c'est juste la pureté de l'air qui traverse la capsule, on n'a pas ces inconvénients. L'autre inconvénient aussi, il faut le savoir, c'est qu'il y a quand même 300 000 accidents domestiques par an en France, causés à cause de la flamme finalement, et qui font 1000 morts quand même chaque année. Et la bougie est la 8e cause d'incendie en France, en fait. Donc, il y avait ces doubles aspects. Voilà.
Ces deux aspects que vous avez pris en compte en inventant alors, un réceptacle dans lequel on vient déposer la cartouche. Et vous travaillez, en fait, vous l'avez dit, avec des toutes petites billes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces billes ? Elles retiennent le parfum, elles le libèrent ?
C'est une diffusion sèche, donc il n'y a pas de liquide. Elles se gorgent de parfum.
Il n'y a pas de gouttelettes.
Il n'y a pas de gouttelettes, elles se gorgent de parfum. Et en fait, avec l'effet de l'air, un peu comme si vous pressez une éponge, l'éponge va se désorber de l'eau, ben là, c'est l'air qui va arracher au passage que les molécules de parfum et que les molécules de parfum, en fait.
Vous les utilisez dans les grands espaces aussi, c'est ce qu'on appelle la micro-nébulisation, c'est ça ?
Alors là, ça, c'est une autre technologie, liquide, mais outre, donc on a plusieurs divisions chez Santis, donc outre la division grand public où on va parfumer des maisons, des appartements, on a aussi une division B2B, ou effectivement pour des grands événements voilà, avec des grandes marques de luxe que je ne citerai pas, qui veulent faire découvrir leur parfum en mode sécuritaire. Donc parfois, ben voilà, des gens
dans
comme
un grand magasin,
Chanel,
par exemple,
ou autre, lancement de produits, on va encapsuler finalement ces produits, parfois les ingrédients, les notes de tête, de cœur et de fond, et ensuite le parfum complet Chanel en l'occurrence, et on va diffuser ça voilà, pour faire découvrir le parfum. Donc on peut tout encapsuler finalement.
Vous avez aussi travaillé avec Peugeot d'ailleurs sur certaines
marques.
Tout à
fait, nous sommes embarqués en fait dans les Peugeot 3008, qui a été la voiture de l'année il y a
3
ans.
Et on peut choisir la fragrance ?
Tout à fait, en fait c'est intégré au tableau de bord. Dans le touchscreen de la voiture, vous allez choisir déjà de ne pas avoir de parfum, donc il y a off, ou alors après même l'intensité, donc moyen, faible ou haut. Et il y a 3 parfums. Et en fait, c'est développé avec Valeo. Et l'air va être canalisé par le système de ventilation dans le parfum choisi par le conducteur ou le passager en réglant l'intensité sans aucune contrainte sécuritaire. Et c'est des parfums créés par des nez. Donc voilà, c'est un peu un art magique de luxe.
25 fragrances, voilà. Tout de même. Notre coach, Riyad.
J'ai découvert le produit juste tout à l'heure et j'ai dit un peu rapidement que c'était un Airwick de luxe, mais c'est beaucoup.
C'était
plus...
hors antenne. Hein.
C'était hors antenne, ouais. Non, mais c'est vrai, je trouve ça. J'ai essayé, moi, de parfumer les intérieurs avec les bougies, avec de l'encens. Alors, moi, ce que je reproche, c'est qu'il y a toujours un peu des particules qu'on voit. Après, vous avez les produits classiques, bon, j'en ai déjà cité un, ça suffira, où les odeurs sont très, très chimiques.
Hein, tout est naturel.
Là, tout est naturel, ça sent bon.
On le sent dans le studio.
Ça marche bien. C'est comme quand vous sentez le cou de quelqu'un qui est parfumé, quoi. En fait, on a cette odeur-là. C'est très, très agréable parce que moi, j'adore les parfums et souvent, je m'en mets un peu juste sur le poignet pour le sentir comme ça. Bah, là, c'est une bonne façon de le diffuser.
Vous avez aussi développé des choses très, très novatrices. Oui. Je pense à une e-bulle. Il y a des hologrammes. Il y a tout un tas de choses chez Santis, très modernes, très innovants.
Exactement. Donc, il y a quand même une empreinte technologique forte hein, de par la présence de David Suissa et son appétence pour la technologie. Et en fait, les gens nous demandent de diffuser le parfum, parfois des choses assez complexes, finalement. Donc, parfois, on a aussi un diffuseur qui s'appelle la Santis Box, qui a maintenant 10 ans, qui peut parfumer jusqu'à 4 odeurs. Donc en fait, il a 4 cartouches, un peu comme une diapo Kodiak, si vous voulez, mais olfactive. Et en fait, on peut, comme un sous-titre olfactif, on va pouvoir mélanger ça avec de la virtual reality, donc de la VR. Et à chaque image, donc de la seconde 1 à la seconde 15, vous allez avoir le parfum numéro 1, de la seconde 16 à la seconde 32, le deuxième parfum. Et comme il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de rémanence. Donc vous passez très rapidement d'un parfum à un autre en un quart de seconde.
Et on peut changer
l'odeur précédente.
Changer gens, effectivement de parfum.
Comme tout a été fait en matière d'image ou de son, finalement l'olfactif, qui est un sens très important mais qui a été sous-utilisé jusqu'à présent, peut être rajouté comme une brique sensorielle en plus du son ou de la vue sur des écrans digitaux. Donc oui, les musées sont intéressés par ça parce que la culture fonctionne bien. Donc on a participé récemment au CITEM, qui est le salon de la muséographie, et beaucoup de scénographes étaient très intéressés de rajouter une brique sensorielle grâce à la Sentisbox à déjà l'image et le son que tout le monde a fait quelque part. Donc il y avait aussi une volonté de se différencier à travers ça.
Sentis, qui est l'entreprise qui va bien, qui est en pleine croissance depuis 3 ans maintenant. Merci d'être venu nous raconter un bout de son histoire. Merci à Riyad Boulanoir qui était notre coach. Merci. Elisabeth Céline, rendez-vous demain midi sur Europe 1.